Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec vous, Yvan Rioufol. Bonjour, merci d'être présent à nouveau ce matin.
Bonjour, Liselotte Dutreuil.
Alors, comment analysez-vous le meurtre de Quentin? Évidemment, c'est la question qui nous brûle les lèvres et puis qui nous préoccupe depuis ces quelques jours.
Bien sûr. Bien sûr, déjà je reprends les termes du procureur Thierry Dran qui a été très clair hier, c'est un homicide volontaire, c'est un meurtre politique, ça c'est moi qui le dis, qui est un homicide volontaire qui a été commis par ces nouveaux terroristes, ces nouveaux fascistes que sont les Antifa. Ce n'était d'ailleurs pas non plus une rixe, mais effectivement un lynchage. 6 personnes contre un individu à terre, contre Quentin à terre. J'entendais encore ce matin Éric Coquerel de LFI nous dire, soutenir que c'était un affrontement entre deux groupes, c'est un mensonge exactement, et donc il faut effectivement entendre ce que dit le procureur qui remet les choses à plat. Mais le vrai scandale, au-delà de cette mort d'un jeune Français tué parce qu'il se réclamait de sa patrie, tient à l'indulgence politique, médiatique, qui a toujours accompagné la montée de ces antifas, la montée aux extrêmes de cette milice, de ce mouvement totalitaire proche de la France insoumise et que j'ai vu à l'œuvre notamment, mais je n'étais pas le seul, lors des Gilets jaunes par exemple, lorsqu'ils voulaient absolument caricaturer ce mouvement en brisant les vitrines des banques, etc. Et en essayant effectivement de dénaturer ce premier mouvement d'un réveil d'une société trop française. Et Quentin Dran n'est pas mort sous les seuls coups, si je puis dire, des nervis de la jeune garde, qui était venue prêter main forte à Rima Hassan, la députée anti-sioniste et anti-France, dans le fond, qui donnait une conférence à Sciences Po Lyon. C'est tout un système politique, et c'est cela que je voudrais peut-être mettre en valeur auprès de vous, c'est tout un système politique médiatique qui a concouru à criminaliser tous ces Français qui, comme Quentin, comme moi, comme vous, j'imagine, osent se réclamer de leurs origines, de leur culture, de leur civilisation, pour défendre effectivement un pays harcelé par ce qui est advenu d'être des nouveaux barbares. Moi, je les appelle ainsi, en tout cas. Et je trouve qu'il est d'ailleurs très curieux de vouloir absolument qualifier d'identitaire Quentin, comme si la question identitaire était devenue maintenant une question inabordable, et on se rend compte en effet que cette diabolisation a rendu Quentin comme étant un homme à abattre, parce qu'il s'opposait d'abord à l'infiltration des islamo-gauchistes dans l'enseignement supérieur, à Sciences Po Lyon en l'occurrence, parce qu'il défendait les femmes occidentales ou les femmes occidentalisées du groupe Némésis, qui sont la cible aujourd'hui de la culture sexiste de l'islam machiste, et parce qu'ils se disaient, en effet, patriotes, nationalistes, comme le sont par exemple les Ukrainiens quand ils sont applaudis pour cela, mais qu'ici, dans sa bouche, ces mots devenaient des mots imprononçables. Or, donc cela pose la question, effectivement, de ce conditionnement mental qui est devenu tel aujourd'hui que, encore une fois, se dire Français de France est vu par le pouvoir lui-même comme une marque d'infamie, une déviance fascistoïde. Fasciste, il suffit d'entendre, pas seulement la France insoumise, mais également la Macronie ou le centre mou. Il y a beaucoup d'hypocrisie chez eux, chez ces macronistes, chez ces centristes, à se horrifier du sort de Quentin, car je n'oublie pas que Macron lui-même a délégitimé les revendications identitaires qu'il voit comme étant des revendications qui se résumeraient à des marques populistes. Et lui-même, s'est fait remarquer en voulant absolument tenir tête à cette France populiste, à cette France populaire, à cette France française, dans le fond, que représente Quentin. Et récemment encore, je l'ai entendu dire qu'il voulait notamment sanctionner les propos racistes ou les propos discriminants, c'est-à-dire, en définitive, des opinions qui pourraient mettre en garde contre une immigration de masse ou un islam colonisateur, en réclamant ou de mettre en garde des discours réclamant une préférence nationale plutôt qu'une préférence étrangère, comme c'est le cas actuellement. Donc ce que l'on voit apparaître dans cette horrible, dans cette tragédie, c'est le profond mépris, la haine que suscitent ces Français trop français, ces Français oubliés dont je parle, vous parle souvent, ces Français maltraités par le système. Et il y a là, je me semble-t-il, un terreau d'une guerre civile, dans le fond.
Alors justement, est-ce qu'il faut craindre cette guerre civile, Yvan Rioufol?
Elle n'est pas là, mais on voit bien que le meurtre de Quentin de Ranque identifie en tout cas ceux qui la désirent, ceux qui l'attisent, ceux qui la recherchent. Ces incendiaires, ce sont d'autres Français qui portent des prénoms français. Ce sont des Français, d'ailleurs, de fils à papa, très, très, très probablement. Nous le verrons, parce que pour l'instant, ceux qui ont tué Quentin n'ont pas encore été arrêtés, mais ils ont été identifiés. Nous verrons le profil de ces Français-là. Et donc, ce sont des Français qui ont choisi d'agresser d'autres Français d'une même génération et de s'allier aussi aux minorités les plus agressives de la nouvelle France, celle que veut défendre Mélenchon. Et donc, cette nouvelle France est habitée de surcroît, non seulement par une hyperviolence qui est celle de la France insoumise, mais elle est habitée par une revanche coloniale. Enfin, je parle de celle qui s'identifie, en tout cas, dans ses discours agressifs vis-à-vis de la France, de l'ancienne France coloniale, et notamment ça, mais également qui ajoute à cette hyperviolence une culture du djihad, puisque, en effet, dans ces alliances entre de l'islamo-gauchisme, il y a le gauchisme et sa violence, et il y a l'islamisme et sa quête territoriale à travers le djihad. Et donc, tout ce constat, ce cocktail, est un cocktail explosif. Et ce qui s'est passé à Lyon est le signal faible, pour l'instant, d'une possible confrontation entre Français. Et là encore, le régime se place et joue, je veux dire, avec le feu en maintenant un faux parallèle entre l'extrême gauche et l'extrême droite qui serait en fait son pendant. Et j'entends le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, nous dire que dans le fond, le Rassemblement national devrait aussi être désigné comme étant d'extrême droite et donc en participant à la diabolisation, à la délégitimation de tout un mouvement populiste, qui au contraire rejette la violence, si l'on veut bien admettre que les extrêmes se définissent aujourd'hui par le recours à la violence et par le refus de la démocratie, ce qui est bien le cas aujourd'hui de l'extrême-gauche est représentée par la France insoumise et par la Jeune Garde. Mais j'observe aussi que les médias d'État participent aussi à cette propagande qui laisserait entendre qu'il y aurait une équivalence aujourd'hui, dans le fond, entre le Rassemblement national notamment et la France insoumise, ce qui est tout de même une aberration et ce qui est à craindre. Pour aller au bout de mon raisonnement, c'est que c'est de voir qu'en 2027, l'année prochaine, dans l'hypothèse, en tout cas, où un candidat du Rassemblement national ou de la France souverainiste pourrait être élu, ce qui n'est pas non plus à exclure, ce qui est même assez probable, ce que je crains, c'est de voir que le LFI et une partie de ces macroniens-là en viennent à contester également dans la rue ce verdict des urnes, tant aujourd'hui la détestation et la fascisation de l'adversaire a embrumé non seulement les esprits de la France insoumise, mais les esprits, encore une fois, du parti en place. Et je pense que je crains effectivement que le réveil des peuples et leur rejet des idéologies progressistes donnent prétexte à de nouvelles violences qui seraient des violences idéologiques permises maintenant par le pouvoir en place. Et moi, je pense que la Macronie partage avec la France insoumise cette même vision irénique d'une société ouverte et avec ce risque, en effet, d'une insurrection des ultras contre ce fascisme qui maintenant est déclamé de partout à partir du moment où ce fascisme ne correspond pas aux opinions ni de l'extrême gauche ni même aux opinions de la Macronie. Bref, en fait, pour résumer, les Français oubliés, ceux dont je parle très souvent, doivent maintenant incessamment arrêter de se faire caricaturer. Ils ont trouvé à travers Quentin effectivement leur symbole, je dirais même leur martyr, d'autant que Quentin était un jeune catholique pacifique, cultivé, qui a été tué sur le champ d'honneur en défendant son pays, en défendant sa patrie. Et il mériterait de ce point de vue que tous les citoyens indignés, par leur maltraitance et par effectivement la violence qu'a subie Quentin en leur nom, que tous ces citoyens indignés descendent dans la rue, se mobilisent pacifiquement pour une grande manifestation de masse en criant « ça suffit », car en effet, aujourd'hui, le vase déborde.
Mais c'est un peu ce qui... L'opportunité qui se présente donc ce samedi à Lyon avec cette manifestation d'hommage à Quentin. Donc, chers auditeurs, si vous avez la possibilité de vous organiser pour cela, on vous en dira plus dans le courant de la semaine. Mais voilà, samedi à Lyon, vous pouvez rejoindre tous ceux qui ont déjà annoncé qu'ils seraient présents, y compris parmi des élus politiques. Merci beaucoup, Jean-Henri Houffol, pour cette chronique. On était contents d'entendre votre avis sur ce drame. Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Je cède la parole à Richard de Sèze et bonjour Mériadec, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Liselotte, bonjour Richard.
Bonjour Mériadec. Donc Mériadec, vous êtes le rédacteur en chef monde de Valeurs Actuelles. Et évidemment, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont le président Macron, puis sa barbe poussée toujours plus longue, a réussi à conclure un contrat absolument admirable avec l'Inde. C'est le contrat du siècle, 114 rafales.
Alors, il n'est pas tout à fait conclu, mais on vient de franchir une étape décisive, puisque vendredi dernier, le 13 février, l'organisme en fait, du ministère, présidé par le ministère de la Défense indien, qui gère les contrats d'armement, en fait, a donné son feu vert à l'ouverture de négociations exclusives entre la France et l'Inde pour l'acquisition d'un montant faramineux de 114 Rafales, cet avion de chasse multirôle fabriqué par Dassault Aviation et qui est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs avions de chasse polyvalent en fait dans le monde. C'est vraiment un contrat très très important. C'est le plus gros contrat que Dassault signerait. Donc quelles sont les perspectives à partir de ce moment-là? Les deux gouvernements français et indien doivent conclure un accord intergouvernemental et qui doit déboucher ensuite sur un contrat définitif. On parle d'une échéance autour de plusieurs mois, autour de 2027, le temps donc pour signer ce contrat intergouvernemental et puis pour négocier surtout les conditions, finaliser la négociation des conditions techniques, industrielles et commerciales de ce contrat faramineux. Pour donner un exemple, pour donner une idée aux auditeurs de l'ampleur de ce contrat, on parle d'une trentaine de milliards d'euros. C'est évidemment colossal. Et c'est d'autant plus colossal que cela vient en fait couronner le travail, le travail réalisé depuis des années par Dassault. Dassault est client, Dassault est le fournisseur de l'armée de l'air, un des fournisseurs de l'armée de l'air indienne depuis, pour la première fois depuis 1953, avec un avion qui s'appelait l'Ouragan, de mémoire. Donc Dassault a toujours eu une relation particulière avec les pilotes indiens. Et cette relation s'était accélérée en 2016. Puisque pour la première fois, Dassault vend des rafales à l'armée de l'air indienne. C'est au nombre de, pour que je ne dise pas de bêtises, je reprends mes notes, au nombre de 36 en 2016, pour un montant de 8,3 milliards d'euros, ce qui était déjà considérable. Et réitère ce succès commercial en 2021 ou 22, je ne sais plus, en fournissant à sa marine 26 rafales supplémentaires en version marine cette fois, pour un montant de 6,5 milliards d'euros. Donc vous voyez que l'ensemble de ces fournitures vient de déboucher. Et si l'armée de l'air indienne a décidé de choisir le Rafale dans une compétition qui l'opposait comme d'habitude avec le chasseur américain F-15 ou F-16 et d'autres chasseurs, c'est bien que le Rafale avait prouvé ses qualités. On va y revenir.
Voilà, il avait prouvé ses qualités, effectivement, on va parler des conflits dans lesquels le Rafale a été engagé. Il y a aussi un aspect plus politique. Choisir le Rafale, c'est choisir un système qui n'est absolument pas américain.
Tout à fait. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Rafale de Dassault Aviation s'est imposé et continue s'imposer en Inde. Et pour cela, il faut juste parler un petit peu de la politique et de la stratégie indienne. Lorsque Narendra Modi, le Premier ministre actuel, est arrivé au pouvoir, c'était le patron de la droite nationaliste hindoue, le BJP, pour ceux qui connaissent un peu les sigles de la politique indienne. En 2016, celui-ci décide de laisser tomber définitivement le concept stratégique du non-alignement. C'est un concept qui avait fait florès pendant la guerre froide. L'Inde disait « je ne suis ni du camp occidental ni du camp soviétique, je ne suis pas aligné ». Et l'Inde était un client historique et favori, quasiment même le client essentiel avait pour fournisseur essentiel l'Union soviétique, les matériels soviétiques qui équipaient en très très grand nombre ses armées. Et puis en 2016, Narendra Modi arrive au pouvoir et il laisse tomber ce concept pour faire valoir un autre concept qui est celui de l'autonomie stratégique d'une part. Ça vous dit quelque chose, hein, c'est un concept qui est très français. Et c'est d'ailleurs sur ce concept que la France, je vais y revenir, a bâti sa relation spéciale avec l'Inde. Et deuxième ambition de l'Inde, donc autonomie stratégique, et deuxième ambition de l'Inde, peser à la mesure de son nouveau poids sur la scène internationale. Je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que l'Inde, il y a quelques années, s'est érigée au rang de premier pays en termes de démographie mondiale, 1,4 milliard d'habitants. L'Inde est aujourd'hui plus peuplée que la Chine, premièrement. Deuxièmement, l'économie indienne, il y a aussi quelques années, a réussi à détrôner l'Allemagne au rang de quatrième économie mondiale et vise pour 2030 le rang de troisième économie mondiale, ce qui est absolument considérable, même si effectivement, on pourra y revenir, l'économie indienne présente un visage très contrasté entre, d'une part, cette économie moderne, nouvelle, high-tech, qui ancre l'Inde sur les marchés globaux et dans tous les marchés du futur, et une autre économie très très informelle qui est encore très prégnante, notamment quand on va à New Delhi. C'est une Inde à deux vitesses, mais l'Inde de Narendra Modi ambitionne vraiment de positionner cette Inde dans le futur. Et d'ailleurs, pour fêter cet événement, l'annonce de cette négociation exclusive avec Dassault Aviation, mais pas seulement, le président français Emmanuel Macron est en Inde cette semaine. Il est arrivé aujourd'hui, il y est pour 3 jours et il avait déjà annoncé son voyage pour être présent à un événement mondial que l'Inde organise à son tour cette semaine, qui est à savoir le sommet mondial de l'intelligence artificielle pour tous. Je reprends le slogan en fait des autorités indiennes qui organisent cet énorme forum dédié à l'intelligence artificielle dans l'immense centre de congrès et de conférences du New Delhi, le Bharat Mandapan pour être précis, qui se trouve sur le bord du fleuve Yamuna qui traverse le New Delhi. C'est un des 7 fleuves sacrés de l'Inde, d'ailleurs ultra pollué, donc c'est un vrai souci. Cette semaine, ça a commencé hier, cette semaine, le Narendra Modi, maître de cérémonie, a accueilli on the stage, hein, sur l'estrade, pour parler français, le cochon est là, donc voilà, a accueilli sur l'estrade toutes les stars mondiales de l'intelligence artificielle, des sociétés d'intelligence artificielle, depuis Google et tous ses camarades, jusqu'à Nvidia, qui est la boîte américaine leader dans les microprocesseurs. Il a également accueilli, à l'occasion de ce forum, une vingtaine de dirigeants mondiaux, de chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron. Narendra Modi, toujours dans cette volonté d'inscrire l'Inde sur la scène mondiale, tout en ménageant et en renforçant son autonomie stratégique, entend peser de tout son poids pour faire émerger, en fait, si vous voulez, des modèles d'intelligence artificielle qui soient alternatifs aux choix dominants qui, pour faire simple, sont soit un choix américain avec ChatGPT, soit un choix chinois avec DeepSeek. Et entre les deux, en fait, mon cœur balance et il n'y a pas véritablement aujourd'hui de choix alternatif. C'est aussi sur cet aspect des choses que Emmanuel Macron, enfin la France d'Emmanuel Macron et l'Inde de Narendra Modi se retrouvent. Ils souhaitent tous les deux nouer des alliances pour promouvoir ce modèle ouvert et alternatif d'intelligence artificielle qui ne soit ni américain ni chinois. Donc on voit bien qu'il y a dans cette relation spéciale indo-française un socle qui a été esquissé le premier par Jacques Chirac en 1998. C'est lui qui officialise le début du partenariat stratégique entre la France et l'Inde, mais qui a été, il faut le reconnaître, et il faut saluer César quand César fait des choses utiles pour la France, en l'occurrence Emmanuel Macron, celui-ci en fait a relancé en 2018 ce qu'il appelle la stratégie Indo-Pacifique de la France, dans laquelle il mise sur le partenariat avec l'Inde dans un objectif gagnant-gagnant. Je vous rappelle que la France est une des principales nations riveraines de l'océan Indien et de l'océan Pacifique grâce à ses territoires ultramarins de la zone, et que l'Inde et la France partagent un même souci géopolitique dans cette zone-là, c'est tenir à l'écart ou faire pièce à la volonté expansionniste de la Chine. C'est vraiment un souci majeur. L'Inde et la France travaillent de concert pour assurer, garantir, maintenir la liberté des mers, qui est un concept cher en fait au cœur des marins français. La liberté des mers, c'est-à-dire que même en mer de Chine, même si la mer de Chine s'appelle mer de Chine, cette mer-là, selon le droit international et les us et coutumes traditionnels des grandes marines du monde, est un espace de liberté jusqu'au moment où l'on entre dans les eaux territoriales, ce qui là effectivement relève d'un autre droit. Donc, je suis un peu parti dans tous les sens pour.
Mais c'est très bien de dresser un véritable panorama en fait des sous-entendus géopolitiques de ce genre de choses. Revenons effectivement sur le Rafale et notamment sur la manière dont depuis 2016 le Rafale a pu prouver son excellence opérationnelle.
Alors, pour repartir sur le fil que je venais de tisser, et en particulier sur les liens maritimes, géopolitiques sur les océans Indo-Pacifiques, la coopération la plus ancienne et la plus soutenue entre la France et l'Inde était celle de leur marine, notamment le porte-avions Charles de Gaulle. Interagit régulièrement, peut-être pas chaque année, mais en tout cas très régulièrement, avec la marine indienne lors de grands exercices dans l'océan Indien. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle les marins indiens ont pu expérimenter, constater, observer en fait la qualité de la version marine du Rafale, et qu'ils ont souhaité acquérir 26 appareils pour équiper leurs deux porte-avions aujourd'hui en service actif. Le premier, alors là je reprends mon papier parce que c'est un nom à coucher dehors, voilà, l'INS Vikramaditya, qui est un porte-avions indien qui a été, conçu sur la base. Enfin, c'est un bâtiment qui avait été acheté à la marine soviétique, à la marine russe, et construit du temps de la marine soviétique, que les Indiens ont transformé pour le faire leur. Ce bâtiment, donc de fabrication russe, a été complété en 2022, puisqu'est entré en service actif un deuxième porte-avions pour la marine indienne. Nous en avons un seul. Celui-ci s'appelle le Vikrant. Et il a été pour la première fois fabriqué dans les chantiers indiens. C'est dire en fait la progression de l'industrie militaire indienne, qui a deux ambitions, et j'arrive au Rafale. se réarmer pour faire face sur la scène mondiale à tous ses compétiteurs, en commençant notamment par la Chine, et deux, se réarmer en faisant monter en puissance une industrie nationale. C'est ce que Narendra Modi appelle le « Make it India ». Et c'est d'ailleurs, c'est un des leitmotivs qui a permis, en fait, à Dassault aussi de remporter le dernier contrat. Je vais y revenir. Ces appareils de Dassault Aviation, donc, ont fait leur preuve de manière assez impressionnante et fulgurante, si l'on en croit en fait les experts français qui ont observé tout cela. Très récemment, lors de l'affrontement aérien ultra violent qui a eu lieu entre l'Inde et le Pakistan, les 7 et 10 mai 2025, les choses sont montées très vite en température, comme on dit, puisque je vous rappelle qu'en avril, il y a un attentat islamiste au Cachemire, dans la partie indienne du Cachemire, le Cachemire qui est disputé à la fois par le Pakistan et l'Inde, un attentat islamiste qui tue des touristes. L'Inde pointe aussitôt du doigt les groupes terroristes islamistes qui sont de l'autre côté de la frontière, du côté pakistanais de la frontière, et qui sont identifiés depuis longtemps sur ces bases arrières. Des groupes qui sont de notoriété publique, instrumentalisés ou en tout cas téléguidés réellement par les services spéciaux pakistanais, l'ISI. D'ailleurs, c'est une tradition chez eux d'instrumentaliser ce type de service. L'Inde monte en puissance, organise en fait un raid aérien, réalise un raid aérien sur les bases connues de ces groupes terroristes pour envoyer un message en direction du Pakistan. Le Pakistan répond en tirant à son tour des missiles et sur des infrastructures militaires indiennes. Et l'engrenage se met en place. Les Indiens réagissent. C'est l'opération, c'est la suite de l'opération Sindoor, S-I-N-D-O-O-R, pour être précis. Si vous voulez, on a une véritable bataille aérienne qui met aux prises plus de 50 avions, 20 d'un côté, 30 de l'autre, de tout type d'ailleurs, de vieux aéronefs soviétiques côté indien avec des Mirage 2000 et des Rafales, de l'autre côté pakistanais des appareils américains, des appareils chinois. L'affrontement est vraiment important à coup de défense antiaérienne. Et cela se termine en fait quelques jours plus tard, lorsque les Indiens décident de donner une bonne leçon aux Pakistanais et ciblent avec leurs avions, avec les missiles de leurs avions, des infrastructures stratégiques pakistanaises dans la profondeur du territoire pakistanais, des infrastructures qui sont véritablement liées directement à l'arme atomique pakistanaise. Je vous rappelle que l'Inde et le Pakistan sont tous les deux dotés de l'arme atomique. Et là, le message... Donc on est véritablement juste sous le seuil qui conduit en fait à l'escalade nucléaire. Et cet avertissement, ce dernier avertissement en quelque sorte conventionnel des Indiens, illustre en fait la faillite, l'incapacité des Pakistanais à protéger leur sanctuaire national et pire, les infrastructures qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre l'arme du dernier recours. Cet avertissement est pris comme il doit l'être. Les Indiens disent la prochaine fois, on montera, c'est le seuil, c'est l'escalade nucléaire. Les Pakistanais, les Indiens décident alors de signer un cessez-le-feu, sans doute fortement conseillé par leurs amis américains. Je vous rappelle que les États-Unis sont à la fois partenaires de l'Inde, mais également se sont rapprochés du Pakistan. Les choses s'arrêtent là. Mais dans les heures qui suivent ce cessez-le-feu, on assiste à une formidable opération de désinformation militaire orchestrée par le Pakistan, sans doute avec le soutien des Chinois, consistant à expliquer que sur la base de pertes indiennes, on évoque au moins 3 ou 4 avions indiens au tapis, dont dont des rafales, les Pakistanais laissent dire, comment dirais-je, non seulement laissent dire, mais écrivent que l'armée de l'air indienne a été incapable de se protéger, que les appareils français finalement ne sont pas à la hauteur de leur réputation, que les armes chinoises, et c'est ça le point majeur, surpassent aujourd'hui largement les armes occidentales et qui donc il vaut mieux s'équiper d'appareils chinois, de missiles chinois notamment, plutôt que d'avions et de missiles occidentaux. La propagande fonctionne en particulier dans les médias anglo-saxons qui évidemment se délectent par avance
et d'un échec français.
C'est là, on en sourit, mais c'est la réalité. Et cette propagande fonctionne d'autant mieux que les autorités indiennes décident de ne pas répliquer, disent-elles, pour ne pas dévoiler d'informations cruciales sur en fait l'importance de leur parc aérien. Donc ils laissent dire, c'est évidemment une catastrophe puisque la majorité des médias reprend ces informations. À la fin du mois de mai, considérant cet échec informationnel au regard de ce qu'ils estiment être une victoire tactique et même stratégique, les Indiens décident de changer de portage et dépêchent dans les grandes capitales occidentales des envoyés spéciaux pour faire valoir leur narratif, à telle enseigne que j'ai eu l'occasion à l'ambassade d'Inde à Paris au mois de fin mai d'écouter en fait une délégation importante de parlementaires indiens qui étaient venus délivrer deux messages. Le premier, c'est que les éléments de langage pakistanais étaient faux, mais je me rappelle qu'ils ne voulaient pas à l'époque confirmer la perte notamment d'un Rafale, dont on est sûr. Et le deuxième message qu'ils étaient venus délivrer, c'est que l'Inde ne souhaitait pas, il n'avait jamais été question pour l'Inde de dépasser le seuil de l'avertissement conventionnel pour monter le stade de l'escalade nucléaire et qu'il fallait se rassurer.
Rappelons quand même que dans cette guerre informationnelle, effectivement déclenchée par la Chine pour vanter son industrie militaire, on avait passé sous silence le nombre d'appareils pakistanais qui avaient été mis au sol.
Voilà, donc
y compris par les rafales.
Par les missiles en fait envoyés par les rafales, puisqu'en fait l'Inde avait assumé d'organiser sa réaction militaire depuis le sol indien, c'est-à-dire sans violer l'espace aérien pakistanais dans cette volonté stratégique de défense en réaction, si vous voulez, ne comportant pas des éléments d'escalade. Bon, et en fait, dans la foulée, ils ont changé de stratégie et ils ont attaqué en fait dans un deuxième temps, ils ont attaqué les défenses aériennes pakistanaise pour frayer un chemin à leurs missiles et à leurs appareils pour pouvoir réaliser l'opération stratégique que je vous ai décrite tout à l'heure. Et donc en fait les retours d'expérience qui ont été publiés notamment par les experts du Centre d'études spatiales de l'armée de l'air et de l'espace à Paris sont tout à fait significatifs. C'est que les Indiens ont réalisé une opération tout à fait importante et tout à fait décisive pour démontrer en fait leur capacité non seulement à protéger leur territoire mais également à porter le fer dans le territoire adverse en forme d'avertissement si vous voulez conventionnel. Les Indiens ont donc décidé, d'ailleurs il n'est pas anodin que les Indiens aient officialisé cette négociation des 114 rafales qui était évidemment déjà en cours, mais ce qu'ont dit les autorités indiennes la semaine dernière en officialisant cette décision, c'est qu'ils voulaient renforcer leur armée de l'air avec des appareils multi-rôles de ce calibre tel que le Rafale, pour non seulement verrouiller en fait leur espace aérien, mais également être en mesure de dissuader davantage toute agression ennemie. Donc évidemment, il s'agissait de, sans le nommer, du Pakistan, mais aussi peut-être de la Chine, de dissuader en fait tout ennemi. Et c'est là où le parallèle est intéressant, c'est-à-dire que les Indiens ont reconstruit leur flotte pour tenir à distance la flotte chinoise. Je vous rappelle que les Chinois ont aujourd'hui 3 porte-avions et d'ici 2030, en auront 5, dont des porte-avions nucléaires comportant la meilleure des technologies, à savoir le fameux, la fameuse catapulte pour projeter les avions lourdement armés, puis des brins d'arrêt pour les récupérer, ce que n'ont que les Américains et les Français aujourd'hui. Eh bien, les Indiens appliquent cette même doctrine aujourd'hui avec leur armée de l'air. Et pour ce faire, ils décident donc de muscler leur parc de Rafale.
Alors, vous l'aviez esquissé tout à l'heure, mais je crois que c'est le moment d'en parler. Cette souveraineté, cette autonomie stratégique, elle se fonde aussi sur du transfert de technologie.
Exactement.
Autrement, voilà.
C'est très important. Donc, il y a déjà aujourd'hui plusieurs usines co-détenues par des industriels indiens et les partenaires, le team Rafale, c'est-à-dire Dassault pour l'avion, Safran pour les moteurs et Thales pour les armes. Il y a déjà plusieurs usines qui vont entrer en service ou qui sont en construction. Et on sait d'ores et déjà qu'une usine sera en mesure de produire des bouts ou des fuselages de Rafale d'ici 2027-2030. Il y a une usine qui va permettre aux Indiens de réaliser la maintenance du fameux moteur M88 qui équipe le Rafale et qui est produit par le motoriste français Safran. Il y a également une ligne de production en cours d'assemblage qui permettra aux Indiens de fabriquer localement la fameuse bombe AASM, qui est une bombe air-sol avec un système de guidage qui pourrait être d'ailleurs, je crois, si j'ai bien compris, intégré aussi à d'autres appareils made in India, voilà. Et les Indiens n'ont pas caché leur exigence avec ce contrat des 114 Rafales qu'au moins, enfin c'est pas clair, mais qu'au moins 80 ou 90 des appareils des 100, sur les 114 soient fabriqués intégralement sur le sol indien. C'est donc, et Dassault et Safran ont envoyé des signaux en ce sens, c'est aujourd'hui le sens des partenariats qui sont gagnant-gagnant entre les industriels occidentaux et en particulier les Français qui maîtrisent la très haute technologie et les clients qui souhaitent se doter de ces technologies. À la différence, je pense, des partenaires de Dassault dans le Golfe Persique, par exemple, ou en Égypte, l'Inde est une grande nation d'ingénieurs et de mathématiciens. L'Inde a un vivier en fait de compétences qu'il suffit d'apprendre et de faire monter en puissance pour armer des usines sur place. C'est pas forcément le cas, donc je disais, de tous les pays avec lesquels Dassault travaille. Et Dassault imagine aujourd'hui, si j'en crois les informations que parcellaires, enfin les petites informations que Dassault laisse filtrer dans les médias, c'est que Dassault serait prêt à mettre en place des lignes d'assemblage en fait d'avions. Il y a déjà une conséquence, enfin il y aura déjà une conséquence industrielle et donc en termes de valeur ajoutée pour la France, c'est que les lignes d'assemblage du Rafale à Bordeaux-Mérignac sont déjà montées en cadence. Cet été, on parlait de 2 à 3 appareils réalisés par mois. On apprend aujourd'hui qu'en amont, tous les sous-traitants, la centaine de PME en fait qui participent à la construction des Rafales seraient aujourd'hui sur un rythme de 4 livraisons par mois en amont. Donc on imagine que cette ligne pourrait encore monter en puissance. Et ça, c'est évidemment tout à fait favorable et bénéfique à la fois pour nos industriels, pour notre emploi et pour notre balance commerciale. Mais Dassault dit aussi qu'il tirera bénéfice de la création d'un véritable pôle délocalisé de Rafale en Inde en termes de coûts, si vous voulez. C'est que Dassault a déjà une ligne à Little Rock aux États-Unis pour assembler, faire l'assemblage final de ses Falcons. C'est une question de coût, c'est-à-dire que le coût de la manœuvre...
Les Falcons, là, qui sont des avions civils.
Voilà, le coût de la manœuvre aujourd'hui en France est tel que pour être compétitif sur le marché international des avions d'affaires, Dassault Aviation avait trouvé cette alternative. Et là, on sent bien aussi que c'est une des raisons pour lesquelles Dassault est tout à fait partant, sachant qu'il n'est évidemment pas question pour l'avionneur français de livrer les secrets de fabrication de cet avion Rafale, et notamment les codes sources qui permettent en fait de gérer les systèmes électroniques de l'avion, sans lesquels vous ne pouvez pas intégrer, améliorer, augmenter, moderniser votre avion, parce que vous savez qu'aujourd'hui un avion de chasse, ça vaut évidemment par son moteur et son avionique, mais le cœur de l'intelligence et le cœur de la supériorité de l'avion aujourd'hui, c'est l'électronique embarquée, cette électronique embarquée qui doit être régulièrement mise à jour.
Et qui permet que cet avion soit en fait connecté à tout le reste du système d'armement. C'est d'ailleurs tout l'objet du SCAF, et c'est là un peu que je voulais... il nous reste 5 minutes, ouais. Mais justement, ce qu'il y a de fascinant, c'est que d'un côté, on voit bien que le Rafale est un outil formidable au service de la France et au service de ceux qui ne veulent pas être alignés, donc les BRICS, sur militaro-industriel oui. américain.
Oui.
Et en même temps, Dassault est en but en Europe au SCAF, donc l'avion de nouvelle génération, où les Allemands veulent mettre la main justement sur l'intelligence embarquée.
Alors vous avez raison, pour être précis et en terminer sur le contrat franco-indien, l'une des spécificités de l'avion Rafale, c'est que les Français livrent l'avion sans restriction d'emploi. Autrement dit, et pour faire une comparaison, quand les Saoudiens ou les Émiriens où les Qataris achètent du F-35 américain, c'est-à-dire le concurrent actuel du Rafale, les Américains conservent la possibilité, depuis les États-Unis, de verrouiller l'emploi de l'appareil. Autrement dit, si l'appareil sort d'une limite de son domaine de vol
autorisé par les
Américains, l'avion, en fait, ne fonctionne plus, si vous voulez. Autrement dit, si l'avion, par exemple, se dirigeait vers Israël, l'avion ne fonctionnerait plus. Avec le Rafale, même si le constructeur, je le dis, garde les codes sources qui permettent de faire évoluer l'appareil, l'avion Rafale est livré avec ses équipements, ses armements, et la marine indienne en fait ce qu'elle en veut. Il n'y a pas de restriction. Ça, c'est politiquement, c'est un atout majeur du Rafale. Et alors, ce qui est très intéressant, et vous me prenez par surprise sur un dossier ultra compliqué, mais en 5 minutes, ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle, en 2 minutes, mettre en parallèle cette belle future victoire du bilatéralisme, des stratégies bilatérales de la France, c'est-à-dire on noue des partenariats sur des bases qui sont des bases communes, gagnant-gagnant, et ensuite on tisse une relation dans la profondeur. On parle du Rafale, mais on peut parler aussi du fameux contrat Camus entre la France et la Belgique pour équiper l'armée de terre belge des mêmes matériels de haute technologie que l'armée française. Ça fonctionne très bien. Et en parallèle, au même moment, on assiste au début de l'effondrement de la fameuse stratégie d'Emmanuel Macron de l'Europe de la défense. Je vous renvoie à son fameux discours sur l'Europe de la à la Sorbonne en 2017 ou 2018, lorsqu'il évoquait le fameux partenariat franco-allemand, le socle fondateur de l'Europe de la défense, ce socle aujourd'hui qui craquelle de tous les côtés, et même l'Élysée a du mal à le cacher. Le SCAF, on voit que les Allemands ne sont pas du tout partants, parce qu'en fait, ce qui les intéresse uniquement, c'est de piller la technologie, le savoir-faire de Dassault pour faire comme ils ont fait avec Airbus. Je vous rappelle que ce sont les fonds publics français qui ont permis à Aérospatiale de devenir Airbus et pour le plus grand profit de l'Allemagne qui contrôle aujourd'hui Airbus Defence and Space, c'est-à-dire la branche militaire de l'avionneur Airbus. Le SCAF, donc on voit bien que le SCAF est quasiment enterré, et aujourd'hui on s'aperçoit aussi que l'autre pan de cette stratégie franco-allemande qui est le char du futur, on s'aperçoit aujourd'hui que les Allemands vont nous quitter.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup Mériadec Raffray de nous avoir dressé ce panorama complexe, parce que voilà, il ne suffit pas de vendre 114 Rafales, il faut savoir effectivement ce qu'on a vendu. Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et on poursuit avec vous, Gilles.
Bonjour Elise-Lotte, bonjour Franck, bonjour chers auditeurs.
Alors que se passe-t-il à Sciences Po Lyon au lendemain du meurtre de Quentin ?
Alors, Le Figaro, qui est le premier journal à publier la photo de Quentin Derenck, est allé enquêter dans l'école qui est fermée d'ailleurs, car les étudiants sont en vacances. Mais, comme l'écrit Le Quotidien, à l'intérieur, on voit quand même un écran allumé qui annonce toujours la conférence de l'eurodéputé Rima Hassan, organisée le 12 février à l'initiative de l'association étudiante Euroca, je dis bien Euroca. Depuis plusieurs mois, cette association étudiante dédiée aux sujets politiques et culturels, entre guillemets, a fait la part belle aux figures de la France insoumise et aux élus de gauche lors de débats après Manuel Bompard en décembre dernier, ou encore Emma Fourreau, eurodéputée LFI en octobre, l'opportunité d'accueillir Rima Hassan était trop belle pour ses étudiants. Mais aussi risquée, et qu'affirme la directrice de l'établissement, Hélène Surel, un peu naïvement, « J'ai considéré qu'il n'y aurait pas de risque de trouble à l'ordre public en recevant Rima Hassan jeudi. » Alors elle précise avoir autorisé la venue de l'eurodéputée il y a une dizaine de jours, sans jamais avoir échangé avec elle. Et dans un communiqué publié dimanche, l'IEP assurait déjà que, contrairement à ce qui est affirmé dans certains messages sur les réseaux sociaux ou dans la presse, l'établissement a mis en œuvre tout pour assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la venue de Rima Hassan. Bon, bah, parfait, on a vu le résultat. On peut d'ailleurs être en droit de se demander comment, comme les manifestants à l'extérieur de l'Institut n'ont pas été encadrés par la police et pourquoi ils n'étaient pas protégés, comme si les attaques violentes de la jeune garde n'étaient pas prévisibles. Et quand Hélène Surel assure que toutes les précautions ont été prises à l'intérieur de l'établissement pour que la conférence se déroule normalement, elle ne dit rien sur ce qui s'est passé donc à l'extérieur. Et là encore, on ne peut que constater qu'il n'y a eu aucun groupuscule d'ultra-droite ayant perturbé la conférence, mais que ce sont seuls les nervis de la jeune garde qui se sont agités dehors. Voilà la vérité, et comme l'a confié un professeur de Sciences Po Lyon, depuis plusieurs années, le débat n'est plus possible. Pour moi, c'est une forme de basculement. On a senti cette tension monter au fil des ans, et aujourd'hui, on ne sait plus se parler, accepter le clivage, avoir cette capacité à débattre. Et si on commence à dire qu'à Sciences Po, on ne peut plus inviter tel député ou eurodéputé parce qu'il est de droite ou de gauche, qu'est-ce que vont devenir les IEP ? C'est très préoccupant, fin de citation. Mais la question qui reste en suspens, est-ce que vraiment la vocation des universités à transformer les amphithéâtres en meetings politiques ? Quelle image déplorable cela donne de l'université française ? Une conférence qui engendre la mort d'un étudiant, voilà ce qui reste inacceptable. Et comme l'a dit hier sur CNews le ministre de la Justice, on ne devrait mourir pour ses idées, mais que de mort lente, comme dit Brassens.
Et du côté de la presse de gauche, comment réagit-on ?
Alors c'est très intéressant, Liselotte, de lire tous les journaux de gauche qui s'en donnent à cœur joie, du moins c'est du pain béni pour elle. Le Monde, qui n'avait rien dit de l'événement ni de la mort de Quentin en une, se rattrape avec son numéro daté de mardi en écrivant en gros titre « Violence politique » au pluriel, l'ultra-gauche en accusation. En précisant parmi quatre accroches, la mort de Quentin D, un militant d'extrême droite à Lyon, à la suite d'affrontements avec des antifas, suscite de vives réactions politiques. Et précise tout de même, en marge d'investigation, la France insoumise se voit reprocher des liens avec la Jeune Garde, le groupe antifa soupçonné de ces violences. Et le journal s'en donne à cœur joie en page intérieure, en titrant « Des figures de l'extrême droite réunies à Paris pour son hommage ». Du pain béni pour le journaliste Clément Guillou qui cite la présence d'Éric Zemmour, de Marion Maréchal et ses proches, et plusieurs parlementaires du Rassemblement National qui réclamaient en 2022 la dissolution des groupuscules d'extrême droite comme celui qui organise le rassemblement du jour, le groupuscule identitaire Les Natifs. Alors on a droit aussi à la déclaration au Monde de Pierre-Romain Thionnet, député européen du RN, qui déclare « La mort de Quentin est une mort politique et doit être suivie d'un sursaut politique. Tout notre rôle va être de montrer que ces groupes meurtriers ne sont pas des groupes isolés en marge du politique. Les antifas sont dans la continuation de la politique de LFI par d'autres moyens. » Et puis le journaliste écrit pardon, encore que le théoricien identitaire, je cite Jean-Yves Le Gallou, présent au rassemblement, pressant que ce triste événement, je cite, est le début d'un cycle de violence politique. Alors une violence dont la gauche aurait, selon lui, l'unique responsabilité, bien que chaque groupe identitaire de France propose des formations au combat et entretienne des liens avec les « actifs clubs », entre guillemets, des groupes férus de coups de poing et de références néo-nazis, fin de citation. Et puis de son côté, l'Humanité, au lieu de s'intéresser à la Jeune Garde ou au mouvement « Éteignons la flamme » qui lui a succédé, le quotidien communiste met l'accent sur des groupes d'ultra-droite qui sévissent à Lyon en titrant rien que ça le risque de représailles brunes. Et pour illustrer son article, publie une photo d'Éric Zemmour à la manifestation de dimanche « Cherchez l'erreur ». Et quant à Libération, il titre en page 10 « Mort de Quentin de Rancque face aux accusations, LFI fustige une diabolisation » et écrit que « Critiqué de toutes parts, l'insoumis dénonce une récupération politique de l'extrême droite, de la droite et d'une partie de la gauche qui s'inscrit dans une phase de diabolisation », encore le mot qui revient, de leur mouvement. C'est scandaleux de voir que certains utilisent cette tragédie histoire pour régler leur compte avec LFI, s'étrangle Aurélien Taché. Autre titre du quotidien, à Lyon, l'enquête est requalifiée en homicide volontaire et Maïté Darnaud revient sur le parcours de Quentin en redisant qu'il faisait partie d'un groupuscule néo-fasciste, rien que ça, à l'Aubroche Bourgoin. Et je précise une référence à la tribune, à la tribu gauloise locale hein, qui résidait dans le nord de l'Isère, et puis créée début mai, ainsi que du groupe nationaliste révolutionnaire Audace Lyon, formé après les dissolutions en juin de Lyon Populaire. Alors tout cela reste à être vérifié, bien sûr, et semble évidemment très réducteur, comme l'a laissé sous-entendre ses amis proches, qui voyaient en lui plutôt un garçon pacifiste, passionné par la philosophie et la vie spirituelle, s'intéressant autant à Aristote qu'à Saint-Augustin. « Aime et fais ce que tu veux » était la devise de Saint-Augustin, et l'on peut penser que ce fut celle d'un garçon tel que Quentin.
Merci Gilles pour cette revue de presse. Puis on va, nous, bien évidemment, continuer à commenter la façon dont la gauche traite cette affaire. C'est un sujet à part entière. Aujourd'hui, je ne vous propose pas de zone libre. On poursuit avec Yann Valéry, mais je vous dis à demain, Gilles.
À demain, Lislotte.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour Yann Valéry, merci d'être avec nous.
Bonjour Lisotte et bonjour à tous vos auditeurs.
On continue de parler de cette affaire Quentin, évidemment, et puis je rebondis sur la revue de presse de Gilles Brochard qui nous citait Jean-Yves Le Gallou il y a quelques instants en nous disant que voilà, Jean-Yves Le Gallou expliquait que ce triste événement est le début d'un cycle de violence politique. Comment est-ce que vous percevez cela de votre côté? Vous avez travaillé sur effectivement la fracture que ces événements révèlent au sein de la société française.
Oui, effectivement, je publiais un article là-dessus également hier qui expliquait que la violence politique qu'on vivait actuellement annonçait une certaine forme de barbarie parce que, alors certes, c'est pas la violence politique n'est pas nouvelle en France, et notamment en France, qui est un pays profondément politique. La Révolution française, déjà, c'était aussi une violence politique. Les années de plomb dans les années 70, c'était une violence politique et il y a eu des morts, il y a eu des drames. Mais on avait peut-être un peu perdu de vue tout cela pendant quelques décennies, même s'il y a toujours eu des violences, des agressions, des combats entre groupes radicaux opposés, etc. Mais cette mort, cet assassinat de Quentin, hein, puisque maintenant les faits ont été requalifiés en homicide volontaire, tout du moins l'enquête a été basée là-dessus. Cette mort vient nous rappeler que, effectivement, je pense avec terreur d'ailleurs qu'on est en train de sombrer dans une société de plus en plus barbare, et une société barbare parce que, je l'avais un petit peu évoqué dans mon premier ouvrage « Sécession », en fait, on est dans une société où les gens, tout simplement, ne peuvent plus et ne vont plus pouvoir vivre ensemble. Et là, il s'agit même d'aller au-delà de la question de l'immigration, des différences communautaires entre les gens, y compris au sein des autochtones de ce pays, ou d'Europe, ou d'Occident, comme vous voulez. Il y a des groupes qui ne peuvent plus vivre ensemble, et c'est quasiment irréconciliable. Donc c'est inquiétant pour la suite, parce que finalement chacun s'entretient dans des bulles qui sont exacerbées par les réseaux sociaux. En fait, chacun se fabrique sa propre actualité. D'ailleurs, on le voit des suites de la mort de Quentin, puisque en fait il y a un camp, on va dire le camp national, le camp de droite, et y compris d'ailleurs une partie du centre ou du centre-gauche qui qui condamne, qui pleure Quentin, qui dénonce ce qui s'est passé. Et on a aussi en face des gens qui représentent aussi des millions de personnes qui disent « Oui, mais c'est quand même l'extrême droite la responsable, c'est elle qui sème la violence, la haine depuis des années. Donc, en fait, en gros, elle ne récolte que ce qu'elle mérite et Quentin est une victime collatérale de tout cela. » Et en fait, personne n'arrivera... Ce que je trouve assez terrifiant, c'est que vu que plus personne ne parle et que tout le monde s'enferme dans ses propres bulles, personne n'arrivera à convaincre l'autre. Donc, au bout d'un moment, au bout du bout du bout, qu'est-ce qu'il y a quand les gens ne parlent plus, refusent de se parler et se jettent des anathèmes? Il y a la guerre, il y a le lynchage et il y a la mort de beaucoup de gens.
Oui. Vous parlez du rôle des réseaux sociaux dans la fracturation de la société. C'est vrai qu'on peut constater la façon dont chacun va se construire son propre récit, choisir d'adhérer à sa propre à la réalité qui convient le mieux, et puis une certaine déconnexion du réel, puisque sur les images qui ont été diffusées de l'agression de Quentin, donc, et le moment où il reçoit ses coups qui le tueront, on voit certains militants antifa qui sont soucieux de filmer la scène. Il y a une distance énorme, il n'y en a aucun qui se dit « Tiens, mais en fait, ce que je suis en train de filmer, ça servira peut-être de preuve si jamais ça finit mal, si jamais l'individu que je suis en train de frapper porte plainte. » Non, ce qui compte, c'est cette mise en scène et puis ensuite le partage, encore une fois, dans ces mondes parallèles, sur les réseaux sociaux, dans des boucles Telegram. C'est assez effrayant de voir cette déconnexion.
Mais on l'a, alors j'ai envie de dire là pour le coup on la voit de tous les camps, de toutes les radicalités, parce que c'est vrai que j'ai longtemps parlé de Antifa Squads, qui était la chaîne Telegram où les antifas depuis des années en toute impunité balancent des vidéos où ils se filment en train d'agresser et de lyncher des gens considérés comme étant de droite ou d'extrême droite. Mais il y a le même pendant dans la mouvance nationale, identitaire, tout ce que vous voulez, ou hooligan même, il y avait des chaînes comme West Casual, par exemple, qui montraient en permanence des agressions sur des personnes qui étaient prétendues antifa ou autres. Avec des lynchages, avec des coups de pied dans la tête, avec des pénalties. Et en fait, si vous voulez, c'est une espèce de volonté de se gargariser d'une violence extrême et qui est lâche en plus, parce que je veux dire, pour mettre des coups de pied dans la tête à quelqu'un qui est par terre, il faut être un lâche, il faut être un animal. C'est même plus, on est dans la barbarie, on n'est pas du tout dans le combat réglo à main nue qui éventuellement peut s'entendre, j'ai envie de dire, parce que y compris quand il y a des désaccords, on peut régler ça effectivement sur un ring ou même dans la rue d'ailleurs, mais pourquoi pas, mais avec quand même des règles. Mais là, il y a plus de règles, on saute à pieds joints sur la tête de quelqu'un, on se met à 10 contre 1, on le relève pas, on ne cherche, enfin c'est délirant. Et d'ailleurs, je fais une digression, mais je liais ça un petit peu aussi en parallèle. Si vous regardez dans le sport de combat d'aujourd'hui, vous avez le MMA qui est devenu une discipline beaucoup plus populaire chez les jeunes que la boxe anglaise, ou que la boxe thaïlandaise d'ailleurs, ou que la boxe française, la savate. Et je pense que c'est un signe de quelque chose, parce que le MMA, lui, autorise le combat au sol, l'étranglement, l'écrasement, la domination totale de l'adversaire. Il n'y a qu'à voir le dernier combat de Benoît Saint-Denis, que j'apprécie par ailleurs, mais vous voyez le nombre de coups de coude qu'il met dans la nuque et dans la tête de son adversaire qui est par terre. Et ben, c'est pas du tout pareil que quand vous aviez Mike Tyson contre Holyfield qui boxe en boxe anglaise, homme à homme, debout, debout et debout. Et en fait, cette appétence pour tout ce qui est lynchage, pour tout ce qui est un peu combat de gladiateur, c'est quelque chose qui est très révélateur. Et comme vous l'avez souligné aussi, cette volonté toujours d'être diffusée sur les réseaux sociaux, de se montrer, de se mettre en valeur, c'est vraiment quelque chose qui est surprenant, mais qui est particulièrement inquiétant, parce qu'encore une fois, on s'enferme dans des spirales complètement auto-centrées, auto-fermées, et l'autre, finalement, ce n'est plus quelqu'un qu'on peut apprécier, c'est simplement un ennemi, un adversaire permanent, et on est dans la volonté de haine permanente. Et encore une fois, il faut s'en inquiéter. La pente est dangereuse parce qu'une société qui ne sait plus réguler ses conflits par la parole, elle finit toujours par les régler autrement, et autrement, c'est la barbarie.
Alors, il y a peut-être justement ce climat médiatique qui, indirectement, a encouragé ces dérives vers la violence. C'est-à-dire qu'on empêche aussi énormément les gens de s'exprimer. Il y a certaines opinions qui sont admises, pas d'autres. On a vraiment eu un échec de cette culture du débat qui, pourtant, était très importante en France. Et pourtant, d'ailleurs, beaucoup continuent de faire comme si on pouvait encore s'en enorgueillir. Dire, voilà, on débat, il faut discuter. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, le discours n'est plus possible en France. Il n'y a qu'à se brancher sur certaines chaînes de télévision pour réaliser que systématiquement, l'avis contraire qui est donné est censuré. C'est tout juste si on coupe pas le micro de la personne en question.
Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu... En fait, ça s'est généralisé, malheureusement. D'ailleurs, si vous parlez de vous parlez des médias, il ne faut pas oublier que toute la presse dite de réinformation ou dissidence a profité d'Internet pour donner un autre son de cloche, un autre regard sur l'actualité, pour apporter des contre-informations, des informations alternatives, parce que le service public ne faisait pas son travail, parce que les médias mainstream ne le faisaient pas, parce qu'elles n'invitaient pas tout le monde, elles ne donnaient pas la parole à tout le monde. Et j'ai envie de dire, peut-être que nous-mêmes, on s'est pris à ce propre piège, parce que si vous faites le bilan 20 ans plus tard, si vous faites le bilan de ce qui se passe, y compris sur nos médias, y compris sur notre presse, parfois, on ne donne pas la parole à l'autre, on ne cherche pas à débattre avec l'autre, on ne cherche qu'à prêcher des convaincus, j'ai envie de dire. Alors, j'ai envie de dire, sur Braise Info, on a toujours essayé de donner la parole à ceux qui voulaient bien la prendre, en tout cas, y compris...
On essaie aussi, il faut reconnaître que c'est...
Vous le faites aussi,
il y a beaucoup de refus de la part de la gauche de venir chez nous, parce qu'il y a eu ce travail de marginalisation aussi.
Exactement. Et en fait, si vous voulez, c'est un gros problème, puisque effectivement, on a nos médias, ils ont leurs médias, chaque groupe, chaque bulle a ses médias, a ses canaux, a ses sujets de prédilection. Je suis sûr que si vous allez aujourd'hui sur le fil Twitter ou sur le fil Facebook ou sur le fil Instagram d'un militant d'ultra-gauche ou alors de quelqu'un qui est plus proche de Renaissance, vous passez dessus toute votre journée et en fait, vous avez l'impression de vivre dans trois mondes réellement parallèles. Et à côté de ça, vous sortez dans votre village, dans votre ville, vous discutez avec des gens qui, eux, travaillent toute la journée, qui n'ont pas le temps d'ailleurs d'aller sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas le temps. Eux aussi vivent dans un autre monde. J'ai envie de dire, le décès de Quentin, si vous sortez de chez... La mort et l'assassinat de Quentin, si vous sortez de chez vous... moi, j'habite en centre-Bretagne, j'en ai discuté avec des personnes autour de moi... C'était pas la chose qui a fait leur plus grande actualité ces derniers jours. C'est pas la chose qui les a plus choqués. Ils ont d'autres intérêts, d'autres prismes, d'autres paradigmes, d'autres préoccupations aussi. Et ça montre réellement qu'on n'est pas dans les mêmes réalités. Et à partir du moment où on n'est pas dans les mêmes réalités, c'est un divorce permanent. Et encore une fois, ça va amener à des choses brutales si on ne réagit pas et si on n'essaye pas chacun d'y mettre du sien pour essayer de comprendre l'autre. Parce que, en fait, si on est dans la logique de la guerre permanente, ça va être l'extermination des uns par les autres. Et à ce jeu-là, je ne sais pas qui gagnera.
Ce que vous dites quand vous réfléchissez à cette fracture sociale, c'est que quand on étudie les guerres civiles, on réalise qu'en réalité, c'est rarement avec un grand discours que tout démarre, mais plutôt avec des fractures successives, des étincelles successives. On pourrait quand même être assez sceptique, puisqu'on voit que, par exemple, au moment de la mort de Naël, qui n'est pas du tout dans le même contexte, on a des émeutes, la France en feu pendant quelques jours. Du côté de la France plus identitaire, patriote, nationaliste, on a un jeune homme qui se fait assassiner dans la rue, qui prend des coups sur le trottoir, et en réalité... finalement, les choses se passent bien. On a des manifestations d'hommage, tout est extrêmement encadré. Il n'y a pas de riposte nécessairement violente et on se dit, bon, bah, considérant cela, on peut presque s'en réjouir, mais dans tous les cas, est-ce que l'étincelle viendrait vraiment ? Est-ce qu'on peut même considérer que c'est une étincelle ?
Alors, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit une étincelle. Je pense que une guerre civile, c'est pas forcément des bagarres permanentes et des affrontements permanents dans la rue à coups d'armes. Une guerre civile, ça peut être larvé, ça peut être plutôt doux par moment, enfin doux entre guillemets, mais ça peut être. Et on est dans un climat, on est dans un climat hostile. Après, il y a 15 ans, enfin il y a 12 ans maintenant, vous avez eu la mort de Clément Méric dans des circonstances autres que celles de Quentin, mais qui ont touché particulièrement le camp Antifa, le camp communiste, le camp d'extrême gauche, qui eux accusaient l'extrême droite, bien que bah, il suffit de se repencher sur les faits pour montrer qu'il y avait quand même eu de la provocation de la part de Clément Méric et son équipe. Mais il n'empêche que les Antifas, eux, l'ont pris comme quelque chose qui pouvait créer une étincelle chez eux. Et d'ailleurs, on a vu que depuis ces années-là, pour resituer au niveau de la gauche et de l'extrême gauche, en fait, l'ultra-gauche a commencé à prendre petit à petit l'influence dans les cortèges de manifestation. Ils ont pris le pas sur les syndicats. Ça s'est concrétisé d'ailleurs pendant les manifs contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, puis après. En fait, toute la mouvance antifa radicale, violente aussi, a pris le pas sur les syndicats qui ont été débordés, sur les partis de gauche classiques qui ont été débordés. Pourquoi? Parce que leur idéologie et leur façon de faire séduisaient beaucoup plus, et séduit sans doute beaucoup plus une partie de la jeunesse, une partie de la jeunesse qui ne pense pas comme nous et qui est à l'opposé de nous. Donc, on vit côte à côte, il y a des affrontements sporadiques, il n'y a pas d'étincelle, effectivement. J'ai envie de dire, même Naël, le cas Naël n'a pas été une étincelle totale, puisque certes, il y a eu des émeutes, mais en fait, ces émeutes se sont terminées, ça a été canalisé, il y a sans doute eu un achat de paix sociale de la part de nos autorités derrière. Voilà, ça s'est calmé. L'affaire Traoré a fini par se calmer aussi. En fait, tout ça rentre dans l'ordre. Je pense quand même qu'on arrive petit à petit à un point de rupture. Il y a une colère qui monte de tous les côtés. Chacun a ses raisons d'être en colère. Chacun trouve ses raisons d'être en colère. Et il risque oui, il risque d'y avoir d'autres explosions. Peut-être ça va aller crescendo. Peut-être qu'on va revenir à des années de plomb. J'en sais rien. Je ne nous le souhaite pas. Je le souhaite à personne. Parce que je pense que le débat et le dialogue, c'est aussi ce qui distingue peut-être notre civilisation des autres. C'est-à-dire que nous, on a aussi, malgré nos guerres, malgré nos conflits fratricides, on a toujours été capable de pacifier les choses, de ne pas sombrer dans le génocide permanent et dans la barbarie, contrairement à d'autres civilisations. Et si demain on perd ça pour revenir un peu à l'état sauvage, je pense que ce sera une régression civilisationnelle, quoi. Et d'ailleurs, ça ira peut-être de pair avec le déclin, voire la fin de notre civilisation, finalement.
Si on veut se protéger de ça, il y a peut-être aussi, enfin, l'État a bien évidemment un rôle à jouer et peut-être déjà en regagnant la confiance des Français, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui doutent que justice soit rendue pour Quentin. Il y a beaucoup qui s'indignent déjà des délais de la justice, d'un certain deux poids, deux mesures, que ce soit donc juridique ou même politique. Et donc, il y a un gros travail de fond de la part de l'État pour pouvoir regagner, encore une fois, la confiance de la part des citoyens.
Après, tout dépend si on en a déjà parlé ici, mais tout dépend si vous mettez votre confiance dans les mains de l'État ou pas. Est-ce que c'est un État central français de décider comment doivent vivre les citoyens et avec qui ils doivent vivre? En fait, ce qui se passe là, finalement, c'est un problème qui traverse la France, la République française depuis la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui ont été mises ensemble alors qu'elles n'avaient rien à faire ensemble. Il y a des nations à l'intérieur de la France qui ont été collées les unes après à côté des autres alors qu'elles n'avaient pas forcément à faire ensemble. Vous avez rajouté à ça l'immigration, vous avez rajouté à ça d'autres religions. Et aujourd'hui, vous exacerbez ça avec des différences politiques radicales. Moi, je ne pense pas que l'État français puisse réguler quoi que ce soit. Je pense au contraire qu'on va vers un divorce profond qui prendra des formes peut-être. Une forme de sécession, en fait. Vous aurez des sécessions géographiques, vous aurez. Justement, il faudrait moins d'État parce que l'État n'ira jamais dans notre sens et n'ira jamais d'ailleurs dans le sens de qui que ce soit, puisque l'État, ce qu'il veut, c'est le contrôle total. Ils veulent le contrôle total de ce que vous faites, y compris dans votre vie privée, chez vous, dans l'école de vos enfants. Ils veulent tout vous contrôler. Donc oui, pour certains, pour les esprits faibles et pour les esprits qui ne sont pas libres, peut-être que l'État est une solution. Pour des gens qui sont amoureux et attachés à leur liberté, je pense que ça passera plutôt par faire sans l'État, par s'en libérer tout simplement, parce que au bout d'un moment, c'est plus acceptable. Aujourd'hui, on a à la fois un État qui laisse mourir nos jeunes et nos moins jeunes d'ailleurs dans les rues, qui laisse une violence politique s'instaurer dans un climat délétère, et en même temps, on a un État totalement qui contrôle la population, qui le matraque de taxes, d'impôts, de caméras de surveillance, de tout ce que vous voulez. On a le pire de l'URSS et le pire du capitalisme sauvage dans ce pays. Peut-être qu'il faut basculer et inverser les choses.
Ouais. Merci beaucoup Yann Valéry d'avoir été avec nous ce matin et donc pour votre analyse. Dans tous les cas, on va essayer de continuer nous à décrypter la façon dont la société française évolue et donc est marquée par ce genre d'événements comme la mort de Quentin, enfin son assassinat d'ailleurs, c'est pas une simple mort. On va continuer donc à en discuter et puis on vous retrouve dans tous les cas vous très prochainement. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée à vos auditeurs.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Lise-Lotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. Avant que vous nous quittiez, je vous rappelle que vous pouvez continuer à écouter Radio Courtoisie puisque c'est toute la journée sur la bande FM et sur le site internet rc.fr. Et 2, que la radio compte sur vos dons pour pouvoir continuer à émettre, mais aussi à se développer, multiplier les reportages. On sera sur place samedi pour cette manifestation d'hommage à Quentin, par exemple. Donc voilà, c'est grâce aux 2% d'auditeurs qui s'engagent à nos côtés. Il faut rejoindre cet effort.
Imaginez si nous passions de 2 à 3 ou 4% ce que nous pourrions faire, la puissance que nous aurions. Puisqu'en plus d'être sur Internet, vous le savez, Radio Courtoisie est avant tout une radio qui diffuse sur la bande FM comme n'importe quelle radio, mais cela a un coût de fonctionnement supérieur aux autres médias. Donc il faut nous aider, nous poursuivons notre combat, nous avons des projets plein la tête et des reportages à vous proposer. Alors s'il vous plaît, vite sur soutenir.rc.fr, faites un don en ligne en fonction de vos besoins, soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Merci d'avance. Et quel sera le programme de la journée, Franck ?
Restez bien avec nous dans quelques instants et en direct les mardis de la mémoire d'Anne Colin pour Nicolas II et Raspoutine, une relation toxique dans l'histoire contemporaine de la Russie, seconde partie. À midi, le libre journal de la musique et de la culture de Didier Rochard. À 16h30, le RC Mag de Jean-Étienne Poza, Antifa, Cagoulé versus Patriote. 17h, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourge. 17h30, Restons Courtois, animé aujourd'hui par Richard de Sèze. 19h30, le libre journal de la France Libre, proposé par Henri Foucrot. À 21h30, le libre journal de l'Occident, dirigé par Guillaume Antoine et François-Xavier Jiquel. Enfin, à 23h, vous retrouverez Aline pour votre soirée musicale.
Voilà, et nous, on se retrouve demain sur votre matinale, chers auditeurs. 7h, bonne journée.
Bonne journée à tous.